Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à tous dans ce rendez-vous avec le podcast du Centre d'études stratégiques aérospatiales sur la chaîne Spotify de l'Armée de l'air et de l'espace. La chronique du CESA a le plaisir de vous emmener en voyage aujourd'hui avec Paul Lambremont dans les fumées du débarquement. Sur un texte de l'adjudant-chef Jean-Paul Talimi, une musique de l'adjudant-chef Christian Caligaro et avec la voix de François-Éric Gendron, colonel de la réserve citoyenne. En ce 6 juin 1944, jour du débarquement, le ciel de la Manche est constellé de plus de 6000 avions alliés. À l'avant-garde de cette immense armada, 24 appareils, dont la moitié appartenant au groupe de bombardement français Lorraine, ouvre le chemin de la liberté. Telle une statue de pierre, un vieil homme se tient seul, au tombant d'une falaise. Le vent normand lui caresse le visage. Il contemple l'horizon et se laisse bercer par le bruit des vagues qui se brisent sur la grève, à rythme régulier, quelques mètres plus bas. Il repense alors à ce mois de juin 1944, où, dans la force de l'âge, il était navigateur bombardier au sein du Lorraine, l'un des plus prestigieux groupes de bombardement des forces aériennes françaises libres.
Je m'appelle Paul Lambremont, je suis navigateur bombardier. Aux côtés du pilote Jean Clément et du mitrailleur radio Henri Dorin, nous formons l'équipage de notre Boston immatriculé OBZ-394, un avion bombardier qui équipe les unités du Lorraine. Avec mes camarades, depuis octobre 1943, nous sommes stationnés à Hartford Bridge, dans le sud de l'Angleterre. En ce 4 juin 1944, le commandant de la base, le groupe Captain MacDonald, décide de réunir l'ensemble du personnel. Face à nous, posté sur une estrade, il adopte une position à la fois digne et flegmatique, terriblement anglais. Des centaines de paires d'yeux où se lie un mélange d'excitation et d'appréhension l'observent. Il commence son exposé d'une voix ferme et autoritaire. « Messieurs, à partir de 7 minutes, Hartford Bridge est en état d'alerte. Il est donc absolument interdit de quitter le terrain sous quelque prétexte que ce soit. Défense absolue de téléphoner. Toutes les lettres seront censurées avant de quitter l'aérodrome. La moindre infraction à ces ordres sera sanctionnée par le passage immédiat en cour martiale. Les équipages resteront dans leur salle car je dois pouvoir mettre la main sur eux à tout instant du jour et de la nuit. Personne n'a de questions à poser? Tout est bien compris? Parfait, vous pouvez disposer. Le propos est limpide. Nous comprenons tous. L'opération de débarquement tant attendue est sur le point de commencer. Et nous allons en être. Le soir même, un ordre de bataille est placardé sur le plateau du mess des officiers. 24 équipages sont mobilisés. 12 Anglais, 12 Français. Le choix des élus s'avère cornélien. Tout le monde veut participer à cette offensive historique qui doit libérer notre terre. Je me ferai un chemin pour atteindre l'affiche et en prendre connaissance. Mon regard s'arrête alors sur ces quelques lignes. Équipage numéro 2, Boston OBZ-394. Pilote, Jean Clément. Navigateur, Paul Lambremont. Mitrailleur radio, Henri Dorin. Autour de moi, la lecture de l'ordre suscite un immense brouhaha. Beaucoup de pilotes et navigateurs français ne peuvent cacher leur déception. D'autres, enfiévrés, s'accusent mutuellement de favoritisme. Mais le temps n'est pas à la polémique. Il faut déjà préparer la mission. Tandis que les armuriers chargent les soutes des Boston de pots à fumer, nos mécaniciens peignent les fameuses bandes blanches de reconnaissance sous les ailes et le fuselage des avions pour nous différencier des appareils ennemis dans le brouillard des combats à venir. Dans la nuit du 5 au 6 juin, l'officier opération nous convie dans la salle de briefing. Nous devinons alors que nous sommes bons pour une mission de nuit. En préambule, Il nous informe d'une voix grave. « Messieurs, c'est aujourd'hui le débarquement. » Puis, se tournant vers les pilotes français, « Votre mission, c'est de déployer deux écrans de fumée entre les flottes alliées et les défenses côtières ennemies. Le Lorraine camouflera la flotte américaine au large de la presqu'île du Cotentin. Ainsi, toutes les 10 minutes, des couples d'avions étaleront leur écran de l'extrémité des îles Saint-Marcouf à la pointe de Barfleur. Altitude, la plus basse possible, au ras de la mer. Vitesse, maximum, 3h30. Quelques heures avant le grand départ, le commandant Fourquet, chef du Lorraine, rassemble ses hommes pour un complément de briefing. Il nous précise « Vous allez voler à 10 mètres au-dessus de l'eau, à une vitesse de 430 km/h. Il faut donc être attentif, car à cette heure matinale, la mer est comme de l'huile, et les embruns salés sur le pare-brise rendent l'altitude très difficile à discerner. » Fourquet marque une pause, comme s'il voulait s'assurer que nous étions conscients des risques auxquels nous allions être confrontés. Il ajoute « Enfin, il y aura dans le ciel des milliers d'avions, et vous ne verrez pas la côte tant elle sera bombardée par les bateaux de guerre et par l'aviation. » Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je dois en effet noter soigneusement sur la feuille de bord les caps à suivre et tracer notre itinéraire sur les cartes. L'émission de fumée est un exercice difficile qui exige une navigation aussi précise que possible. Elle est d'autant plus risquée lorsqu'elle se réalise au-dessus de la mer, puisque l'équipage est privé de tout repère. J'essaie de visualiser la manœuvre. Il nous faudra établir cet écran en volant à quelques mètres de l'eau en suivant une trajectoire rectiligne de plusieurs minutes pendant que la fumée sort des tubes. Le défi est de taille. Le Lorraine doit le relever. 5h15. 2 heures plus tard, la première paire de Boston décolle. Dans le ventre d'un des appareils, le commandant Fourquet, le lieutenant Encar et le sergent-chef Delfaux ouvrent la voie. Puis, à intervalles réguliers, toutes les 10 minutes, les autres suivent. 5h45. C'est à nous. Jean, Henri et moi-même prenons place dans notre Boston. Le premier aux commandes, le deuxième à l'arrière. Pour ma part, je descends dans le nez transparent de l'avion. Nous sommes complètement isolés les uns des autres. Seule la radio nous relie. Plus lentement que d'habitude. Comme si j'assistais à une grande revue, je mets soigneusement mon harnais de parachute. Je vérifie également mon gilet de sauvetage. La trappe se referme. Les moteurs tournent déjà, faisant trembler la carlingue. Je contrôle mon micro. Ok. L'arrivée d'oxygène? Ok, nous y sommes. Assis et sanglé, j'observe un bref instant le terrain baigné par la nuit sombre. Au loin, l'obscurité laisse déjà place aux premiers rayons du jour qui percent timidement les nuages. Il ne fait pas beau. Quel sale temps pour un débarquement. L'avion vibre doucement, comme le ronronnement rassurant d'un chat. Le mécano de piste lève les 2 pouces en l'air. Dans mon casque, j'entends Jean crier
« Paré !»
Puis
« Enlevez les cales !»
Le Boston gagne rapidement l'entrée de la piste. Les gaz sont poussés à fond. Les moteurs rugissent. L'avion s'arrache du sol. Depuis mon poste d'observation, je vois les bocages anglais défiler sous mes yeux à toute vitesse. En moins de 20 minutes, nous atteignons la Manche. La visibilité jusqu'à la moyenne devient nettement plus crasseuse. Désormais, s'offre à nous un spectacle somptueux, fantastique et inoubliable. À perte de vue, des embarcations de toutes sortes dansent sur une mer agitée. Au-dessus de cette armada des temps modernes, une multitude indénombrable de ballons la protège et s'accroche aux nuages. Ce fourmillement contraste avec le silence qui règne à bord du Boston. Personne ne dit un mot. Comme si nous avions été étouffés par le poids de la mission qui nous a été confiée. Le trait de côte français se dessine au loin et s'approche à toute allure. Un dernier virage, nous sommes accueillis par les tirs nourris des batteries allemandes du mur de l'Atlantique. Nos destroyers ne sont pas en reste et les arrosent à leur tour avec leurs canons de 16 pouces. 6h46. Dans une minute, Il faudra, au ras des vagues, me faufiler entre les deux. J'ajuste mon masque à oxygène, puis je crie dans le micro à l'attention de mes deux coéquipiers.
Tout le monde OK ? Ouvrez l'oxygène, à pleine dose.
En effet, il faut à tout prix ne pas inhaler la moindre effluve de cette maudite fumée que nous devons déverser. Elle est toxique. De part et d'autre, les échanges artillerie s'intensifient. D'immenses gerbes d'eau jaillissent à l'avant, à droite, à gauche du Boston. Nous sommes pris entre deux feux. Les avions frémissent en passant à côté des retombées d'eau soulevées par les obus des batteries allemandes. Sur notre droite, les coups de départ des puissants canons de la marine alliée font trembler les fuselages. Je vois des projectiles éclater contre une falaise en haut et à droite, d'où partent des salves allemandes. L'instant d'après, soudain, un pan de falaise s'écroule, emportant avec lui les batteries ennemies. À présent, nous sommes dans l'axe. Je tourne au nord. Aux commandes de l'avion, Jean écoute attentivement mes instructions dans son casque.
À gauche. Encore à gauche. Cap 033. 033, vire à gauche. OK, vieille croûte. On y est.
J'appuie sur le bouton du lance-bombe en criant
« Fumez !»
Le miracle se produit. Une épaisse fumée blanchâtre s'étire derrière notre avion qui maintenant file à près de 500 km/h. Dans mon casque, j'entends Henri qui, depuis son poste à l'arrière, s'exclame
« Au quart de poil !»
Quel panache derrière les avions ! De vraies fusées ! Quelle cible également nous allons devenir si, par malheur, nous avons l'audace de nous rapprocher trop près des côtes. Dans le même temps, nous devons aussi faire attention à ne pas trop coller les navires américains qui ont reçu l'ordre de tirer sur tout ce qui s'approche trop près d'eux. Les quatre pots sont maintenant vides. L'écran de fumée qui s'étend sur plusieurs kilomètres au ras de la mer masque désormais la flotte alliée. Je pousse un ouf de soulagement. Lors de nos entraînements en Angleterre, il n'était pas rare que les réservoirs d'émissions soient défectueux. La fumée pouvait alors pénétrer l'intérieur de l'avion, provoquant suffocation et intoxication de l'équipage. Pour nous, l'opération Overlord est finie. L'avion vire à gauche et met le cap sur Halford Bridge. Mission accomplie. 7h30. Le Boston se pose. Nous sortons de notre cage de fer et de verre, heureux d'être revenus de cet enfer indemne. Nous nous enlaçons. Jean murmure. Maintenant, je peux me faire descendre. J'ai vu le débarquement. Il est en route. Avec une opération d'une telle envergure, c'est gagné. Cela ne peut que réussir. 8h. Tous les appareils français semblent être rentrés sains et saufs. Plus tard dans la journée, nous constaterons qu'un équipage manque à l'appel. Les hommes du Boston J, BZ-213, Roger Boissieux, Bernard Canu et Jean Henson sont tombés au champ d'honneur. Leur avion s'est embrasé près d'un croiseur allié dans une immense gerbe de flammes vite étouffée par l'eau. Comme tous les 6 juin, je suis là aujourd'hui sur cette même falaise pour perpétuer la mémoire de mes camarades morts dans l'accomplissement de cette mission. En pensant à eux, et alors que je contemple cette mer turquoise qui ondule calmement, ces quelques mots d'Albert Camus surgissent de mon esprit. En vérité, le chemin importe peu. La volonté d'arriver suffit à tout. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Cette idée, mes frères d'armes en sont l'incarnation. Je suis fier d'avoir appartenu au groupe de bombardement Lorraine. Si minuscule confetti, perdu dans l'immensité du débarquement, mais dont le courage des équipages était pourtant si grand.